Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Ceux qui ont vu le film de Boris Lochkine, L'histoire de Souleymane, se souviendront sûrement, en écoutant l'épisode du jour, du personnage interprété par Nina Meurice, qui a gagné au passage un César. Elle est une fonctionnaire de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confrontée à un jeune Guinéen, Souleymane, qui vient demander la protection de la France et des papiers. Sauf qu'il a acheté un récit fabriqué de toutes pièces, selon lequel il serait un opposant politique, ce qu'il n'est nullement. Il s'embrouille un peu, et l'officière, pas dupe mais empathique, finit néanmoins par obtenir la vérité sur les raisons tout aussi tragiques qui ont poussé Souleymane à quitter son pays. Dans Les Pieds sur Terre aujourd'hui, on rencontre deux vraies officières de protection des réfugiés et apatrides qui nous parlent, entre autres, de ces récits fictifs qu'elles entendent à la chaîne. Qui sont-elles? Comment sont-elles formées, protégées de la violence qu'elles entendent? Comment rester juste tout en étant empathique? Je rappelle que les officiers et officières de l'OFPRA doivent décider qui peut être protégé en France au nom de la Convention de Genève de 1951 et décider également si les demandeurs ou demandeuses remplissent les conditions qui leur permettront d'être reconnus comme réfugiés ou être protégés par la protection subsidiaire. Mais est-ce aussi simple que ça? Réponse tout de suite avec Karine Lelouette.
Moi, je m'appelle Aude, je vais sur mes 30 ans et j'habite actuellement à Lille depuis août dernier. Alors moi, j'ai un cursus de juriste à la base et je me suis spécialisée assez tôt dans l'étude des migrations internationales, du droit international et européen des migrations. Et assez naturellement et assez vite, j'ai rejoint l'OFPRA en décembre 2019 comme officière de protection. J'ai postulé un peu sur un coup de tête en me disant que ça correspondait à mon profil et en fait j'ai eu un entretien très vite. La semaine suivante, j'ai appris que j'étais retenue à l'OFPRA. Donc tout ça s'est fait vraiment très vite sans que j'ai vraiment eu le temps de réaliser. Et moi, dans ma tête, depuis ma petite vie de province et de début de carrière, c'était quelque chose de complètement fou d'intégrer l'OFPRA. J'ai l'impression que l'OFPRA, c'était vraiment le Saint Graal de l'administration. Je m'attendais à un truc de fou en arrivant. Enfin, j'étais vraiment pleine d'enthousiasme. Et puis, en fait, disons que la réalité s'est rappelée à mon bon souvenir assez vite. Dès le premier jour, j'ai été accueillie par ma chef de service de l'époque. Donc, on a fait un premier tour de bureau. Bonjour, au revoir, voici Aude. Vraiment très rapide. Et dès l'après-midi, on assistait à nos premiers entretiens. Donc, en tant qu'observateur, évidemment. Hein, mais voilà, c'était un peu assieds-toi là et puis regarde. Alors, on m'avait dit que je devais avoir 2 mois de formation intensive sur le droit, la géopolitique, etc. Pas du tout. Les premières formations que j'ai eues, c'était vraiment des trucs très bateaux, utiliser le logiciel de pointage, faire des recherches sur notre logiciel de documentation, enfin vraiment des trucs à la con, finalement. J'ai lu des dossiers, j'ai lu de la documentation sur les pays qu'on m'a affectés. Moi, j'ai commencé sur le Bangladesh, la Géorgie, l'Afghanistan, qui étaient quand même des gros pays, assez compliqués en instruction. L'Afghanistan, j'en avais entendu parler comme tout le monde. Je savais que c'était la guerre et que c'était affreux de vivre dans ce pays, mais globalement, le pourquoi du comment, j'en savais rien du tout. Et c'était très déstabilisant, puisque je savais qu'à terme, il allait falloir que j'aille sur le terrain, entre guillemets, auprès de personnes qui viennent de ces pays-là et qui s'attendent à avoir quelqu'un qui comprend d'où ils viennent. Donc moi, je voulais surtout pas rater quoi que ce soit. Donc pendant 3 mois, j'ai passé mon temps à lire des pavés énormes sur l'histoire de l'Afghanistan, la Géorgie, le Bangladesh. Enfin, je m'étais fait des dossiers avec des notes sur telle province afghane. Puis j'ai commencé à écouter des podcasts, regarder des documentaires, des films. Je me suis énormément investie parce que j'y connaissais rien. Moi, les 6 premiers mois à l'OFPRA, pour moi, ont été vraiment très difficiles. Il y a plusieurs fois où j'ai hésité à partir parce que j'avais l'impression de pas du tout être à la hauteur, quoi. C'était ultra stressant de faire mes pré-entretiens. Enfin, je sais que j'y suis allée en complète panique, que j'avais appris mes notes par cœur. Alors, On va chercher personnellement nous-mêmes la personne en salle d'attente. Donc on l'accompagne aux box qui sont assez petits, hein, qui ont pas toujours des fenêtres d'ailleurs, qui peuvent paraître assez oppressants. Donc il y a un bureau sur lequel il y a un ordinateur, un écran, le clavier, rien d'autre. L'usager, le demandeur d'asile, est en face de l'officier de protection. Entre les deux, on va dire sur le côté, il y a l'interprète. Donc il fait un peu la jonction entre les deux. Donc moi j'avais peur vraiment de paraître pas à la hauteur auprès de mes collègues interprètes, qui sont le plus souvent des natifs, ou des gens en tout cas experts du pays, de la langue, de la culture, et auprès des personnes que j'avais en face de moi. Donc moi c'est surtout ça qui me faisait peur, en fait, c'était de poser des questions qui n'avaient ni queue ni tête, sauf dans mon esprit un peu torturé d'officier de protection à ses débuts, quoi. Donc, il faut qu'on lance l'enregistrement parce que tout est enregistré du début à la fin. Donc, on va d'abord se présenter. Je suis l'officier de protection. Donc, on présente l'interprète qui va traduire dans telle langue. Et ensuite, on va dérouler la procédure. Donc, on va rappeler à la personne ce qu'elle fait là. Et ensuite, on va commencer par la partie état civil. On vérifie que par rapport aux informations qu'elle dit, c'est cohérent avec le pays, la région d'où elle est originaire, la périodicité. Et ensuite, parole libre, la personne déroule sur les raisons qui l'ont poussée à quitter son pays. Et en fait, à partir de là, c'est soit c'est fluide, soit ça l'est pas, parce que ben ils ont appris un récit par cœur ou c'est un faux récit acheté. C'est-à-dire, ben en fait, les réseaux de passeurs, ils sont très bien organisés depuis le pays de départ jusqu'à chez nous. Donc tout est calibré jusqu'à l'arrivée en France. Tu vas dormir chez XYZ, il faut que tu ailles dans tel bureau de traduction, et j'ai mis des guillemets à traduction, on va t'expliquer comment faire pour avoir des papiers, quoi. Et donc globalement, on va dans ce bureau de traduction, on dit je veux des papiers, ok, tu vas faire ça, tu veux faire quoi comme récit, est-ce que tu veux te dire militant politique ou t'inventer une histoire d'amour avec la fille de l'imam local, enfin voilà. Et ensuite, il va être plus ou moins briefé par ce vendeur de récits qui va devoir nous réciter à l'OFPRA, quoi. Moi, par exemple, quand je suis arrivée à l'OFPRA, les Bangladais étaient très très bien préparés parce qu'il y avait un délai d'attente de 18 mois en moyenne. Donc les mecs, ils avaient eu le temps d'apprendre très très bien leur récit. Enfin, vraiment, ils étaient vraiment calés. Donc c'était des entretiens de parfois plus de 2 heures parce que c'était en plus des multimotifs de « je suis militant politique » et « je suis tombé amoureux de la fille de mon rival politique qui est aussi un imam de la mosquée salafiste du coin ». Enfin, c'était un gloubi-boulga assez indigeste et du coup, il fallait vraiment être au taquet. Bon, globalement, il suffisait en fait de revoir le dossier papier pour se rendre compte que déjà il y avait un problème, parce que c'était toujours les mêmes récits, toujours l'oncle paternel qui est méchant et qui veut déshériter le pauvre neveu, machin, l'oncle paternel il s'appelle toujours de la même façon, enfin c'est vraiment très très stéréotypé, et c'est tellement tout le temps la même mise en page, les mêmes tournures de phrases, puis bon c'est toujours le même cabinet de traduction, hein, ils sont à deux qui font les récits, donc au bout du 500e Bangladais, on a compris le manège, quoi, donc voilà, pour les Afghans c'était un peu la même chose. C'était beaucoup plus court parce qu'ils arrivent avec moins d'argent, mais c'était toujours, j'étais dans une épicerie, un taliban m'a demandé de garder son sac, et puis comme de par hasard, j'ai été contrôlée par l'armée nationale 5 minutes plus tard, j'ai été accusée de complicité avec les talibans, j'ai dénoncé de fait ce taliban pour me couvrir, et ensuite ce taliban est mort dans une attaque avec l'armée, et je suis donc accusée d'être complice avec les autorités. Ok, super, enfin c'est vraiment pas du tout même crédible, parce que ça n'avait aucun sens, mais c'était globalement tout le temps ça. On voit bien qu'en fait, on leur a dit « répète ça, ça va bien se passer », puis en fait non, ça se passe pas bien du tout, parce que c'est pas la vérité. C'est très agaçant. Mais c'est d'autant plus agaçant quand on leur dit « écoutez, ça tient pas à votre truc », qui vraiment « mais si, c'est la vérité, je suis un militant acharné », alors qu'en fait, incapable de parler de leur parti, de leurs activités, etc., donc vraiment une coquille vide. Et c'est d'autant plus agaçant parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a de la vulnérabilité. Enfin, les Bangladais, on sait très bien dans quelles conditions ils vivent. Ils sont tous en train de faire la plonge ou dans le BTP à Paris. Ils sont entassés à 15 dans des appartements qu'on leur oblige à payer 500 euros. On leur dit c'est pas cher, mais c'est de l'extorsion. Et en fait, dis-nous la vérité. Tu peux être victime d'un trafic d'êtres humains, de l'exploitation par le travail. Enfin, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour te faciliter la vie, mais si tu relèves pas de l'asile, peut-être qu'il y a une situation de vulnérabilité qu'on peut prendre en charge, nous, sur le territoire. Impossible. Il n'y en a pas un seul qui a lâché le morceau. Et c'est assez frustrant de se dire, ben, en fait, ils se font entourlouper par des gens qui se prétendent être de leur côté au nom de la sacro-sainte communauté bangladaise, albanaise, géorgienne, nanani, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Ils se font exploiter par des gens qui prétendent leur vouloir du bien. Et ça, c'est frustrant, vraiment. Alors, on a entre 24 et 30 dossiers par mois, donc 30 entretiens avec l'instruction en amont, en aval. On doit faire environ 365 dossiers par an. C'est un rythme assez soutenu, sachant que on peut passer d'un entretien de 40 minutes à 6 heures avec de multiples reconvocations. Donc, c'est quand même une charge de travail importante. Parfois, on dure avec un premier entretien, mais on a le deuxième à faire après, parce qu'on doit faire deux entretiens par demi-journée. C'est épuisant nerveusement. Quand on voit l'heure tourner, on voit la masse d'informations qui nous reste à récupérer auprès de la personne. Donc on se dit, il est 17h30, mais il y a une autre personne après qui attend depuis 13h, en fait. Donc elle doit être en complet stress. Moi aussi, je commence un peu à être stressée. J'ai pas fini avec la première. Enfin, moi, je suis toujours sortie d'entretien un peu physiquement fatiguée, quoi. Donc c'est vrai que si dans la même semaine on a fait des dossiers tchétchènes, russes, afghans, iraniens, on a clairement envie d'aller boire des coups le soir en rentrant, quoi. Et on les boit avec les copains de l'OFPRA, c'est vrai que c'est un petit entre-soi quand même, on a tous le même profil, on a tous la même tranche d'âge, on a tous les mêmes centres d'intérêt parce qu'on est tous hyper investis dans notre taf. On est tous archi intéressés, donc le soir, on va aller voir des films qui ont un lien avec l'asile ou avec nos pays, on va s'échanger des bouquins, on va aller à telle pièce de théâtre par tel dramaturge iranien. Et c'est vrai qu'on vit OFPRA, qu'on dort OFPRA, on fait des vacances OFPRA aussi, parce que c'est des potes. Il n'y a pas vraiment de déconnexion. Moi, quand je suis arrivée, on pouvait demander à avoir un ou une psychologue après avoir demandé l'autorisation à son chef. Je crois que c'est 4 séances par an. Honnêtement, je ne connais personne, en tout cas, qui en a parlé à ses collègues, qui a dit « j'ai demandé à mon chef d'aller voir un psy ». Moi, j'ai jamais cru que j'avais besoin de ça. Du coup, je ne l'ai jamais demandé. C'est une question de légitimité. Nos usagers sont des personnes vulnérables, c'est eux qui ont subi, c'est eux qui sont dans une précarité importante. Et du coup, c'est pas qu'on n'en parle pas et qu'on le nie, c'est que je pense qu'on le garde plutôt pour soi et on va plutôt dire « je suis fatiguée en ce moment parce que j'ai trop de dossiers ». Et donc du coup, on va demander à son chef « est-ce que je peux avoir moins de dossiers dans 2 mois pour avoir le temps de finir les anciens ?» Mais on va plus lier ça au nombre de dossiers qu'à la charge émotionnelle qu'on reçoit, en fait, à force d'entendre des récits de souffrance toute la journée. C'est pas seulement d'entendre, c'est qu'il faut en plus comprendre l'avant, un peu le contexte du pendant, l'après, les conséquences. C'est pas seulement « j'ai été torturée », c'est de comprendre comment ça se fait que vous avez été torturée. Et ça, en fait, il faut l'instruire, il faut demander des détails, il faut demander des précisions. On a une personne qui souffre. Nous, on doit chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et c'est ça qui, en fait, à la fin, est épuisant parce que c'est presque qu'on en rajoute à l'effort nerveux, quoi. Et je sais que les derniers mois, quand je descendais en entretien, j'étais déjà très tendue. J'avais déjà comme des bouffées de chaleur. Enfin voilà, j'étais déjà à cran avant de descendre et je sortais de là, mais complètement épuisée, comme si j'avais fait une séance de sport, une transpiration, machin. Pas bien, quoi. J'étais arrivée à bout, en fait, de ce que je pouvais tenir à cette position-là, en fait. Et je dis, stop. Il faut que je préserve aussi un peu ma santé, ne serait-ce que physique, quoi. Et je suis partie au bon moment, quoi. Ce qui est marrant, quand je travaillais encore à l'OFPRA, que je le disais à des gens qui connaissent pas ou mal, c'était soit je passais pour une affreuse islamo-gauchiste prête à intégrer sur le territoire national tous les terroristes de la planète, et les profiteurs évidemment des allocs, soit j'étais une abominable nazie qui faisait que des rejets à l'appel. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'entre deux. Moi, effectivement, j'ai fait des rejets à des personnes, pas parce que je voulais pas qu'elles soient là et parce que j'aime pas les étrangers, parce qu'il n'y avait pas de besoin de protection. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne doivent pas rester sur le territoire national ? Non, mais ça ne relève pas de mon office. Ça relève du droit au séjour. Le droit d'asile, c'est quand même quelque chose de très protecteur qui a un sens. Et si on commence à dire on va accepter telle personne parce que son récit est un peu pourri, mais bon, sinon elle aura pas de titre de séjour, non, ça marche pas. Donc il faut préserver le droit d'asile. Et en fait, tout le reste n'est que politique, finalement. Donc moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait le sale boulot. Au contraire, je suis vraiment fière du travail que j'ai fait à l'OFPRA. Je pense que l'OFPRA a beaucoup de défauts, mais ses agents sont tous extrêmement impliqués et ont vraiment à cœur de pas passer à côté d'un dossier, d'une protection.
Alors, j'étais OP, officière de protection instructrice. Donc, je devais recevoir les demandeurs d'asile en entretien pour savoir s'ils remplissaient les conditions ou non pour être reconnus comme réfugiés. Dans les premiers jours de la formation, c'est des moments où on était tous ensemble encore, toute la promotion. Le directeur général de l'OFPRA avait fait une intervention où il avait commencé par nous dire que la confidentialité est extrêmement importante, qu'on ne devait évidemment pas raconter à l'extérieur ce qu'on entendait en entretien pour protéger l'identité des demandeurs et des demandeuses d'asile. Mais aussi, il nous avait clairement demandé de ne pas répondre aux journalistes, de ne pas parler à l'extérieur du fond de notre travail. Il nous avait dit, ça m'avait marqué, que tout ce qu'on apprenait, on l'emportait dans notre tombe, quoi. Voilà. Et donc, qu'en particulier, la doctrine était secrète. Et la doctrine, c'est les règles qui nous permettent d'établir si la personne peut être reconnue comme réfugiée. On la lit au début. On apprend en gros par cœur les questions qu'on doit poser en entretien pour avoir tous les éléments, pour ensuite décider de s'il remplit tous les critères. Je me souviens que le directeur de l'OFPRA, dans son discours de cette formation, il nous avait aussi dit qu'on avait le droit d'être empathique avec les demandeurs d'asile en entretien, mais pas sympathique, qu'il fallait bien faire la différence, qu'il y avait quand même des limites sur notre comportement à avoir. Ouais, pour moi, c'était quand même assez particulier qu'on nous dise qu'on n'avait pas le droit d'être sympa avec les demandeurs d'asile. On était affectés rapidement dans des divisions qui sont spécialisées sur des zones géographiques des demandeurs d'asile. J'ai été dans la division Afrique et bon, ça m'a beaucoup étonnée parce que j'étais pas du tout familiarisée avec les problématiques de l'Afrique. En plus, l'Afrique, c'est grand. Donc j'étais pas du tout partante. On m'avait dit que j'avais pas le choix et que ça allait venir vite et que c'était pas grave. C'était vraiment pas important le fait que j'ai des connaissances préalables ou pas sur ces pays d'origine des demandeurs et demandeuses d'asile. Donc la formation, elle a principalement consisté à observer mon tuteur en entretien. Il était là depuis quelques années, il était blasé, comme plein de gens que j'ai rencontrés ensuite à l'office, qui étaient là depuis plusieurs années. Pas du tout passionné par son travail. Bon, il était pas méchant, hein. Je pense qu'il essayait quand même de bien faire son travail. Mais bon, il s'ennuyait, et donc il regardait pas spécialement les demandeurs d'asile dans les yeux alors qu'il leur posait des questions sensibles, il essayait pas de les mettre en confiance. Et je trouvais que c'était très froid, en fait, comme ambiance pour parler de choses aussi personnelles. Il faisait beaucoup de décisions de rejet sans avoir spécialement d'état d'âme, et je me suis rendu compte qu'on n'était pas tous là pour la même chose, quoi, qu'il y en a qui ne voyaient pas trop l'importance pour les demandeurs d'asile de ce moment-là. Ça leur était un peu égal, quoi. Je ne m'imaginais pas que j'allais être en première ligne avec des personnes en très grande vulnérabilité. Et j'étais pas préparée à ça. Et c'est assez particulier du coup parce qu'on tape sur notre clavier en même temps que la personne nous parle et qu'on lui pose des questions. Et donc du coup, ça fait un petit peu comme un interrogatoire presque policier. Et donc je me souviens de mon premier entretien où mon tuteur m'observait du coup. Et il me disait que je laissais beaucoup de moments de flottement, qu'il ne voyait pas pourquoi j'attendais entre chaque question. Et surtout à la fin, quand je demandais « est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter ?» C'est la dernière question qu'on est censé poser. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter pour laisser une dernière opportunité à la personne de peut-être revenir sur quelque chose ou voilà. Et je crois que je la reposais plusieurs fois ou alors je le faisais un petit peu durer à la fin et ça l'exaspérait quoi. il me disait mais pourquoi t'arrives pas à conclure quoi. C'est bon, on voit bien, il y a rien dans ce dossier. Donc le jargon, hein. Le dossier est mauvais, c'est un dossier nul. Donc pourquoi t'insistes? Parce que j'avais l'impression de souvent pas avoir assez d'éléments. Et puis, du fait de la précarité, du faible niveau d'éducation des personnes qui nous ont dit juste avant qu'elles avaient été traumatisées par tel ou tel événement, on sait qu'elles sont vulnérables. Donc, on sait qu'elles peuvent mettre du temps avant de se sentir en situation de confiance et de parler de choses très personnelles. Surtout que, voilà, on avait quand même des entretiens où on devait parler d'excision, de traite, de violence sexuelle. Et donc, je me mettais un petit peu à la place de la personne et je me disais, moi, j'aurais besoin d'une heure et demie avant de pouvoir commencer à me dire que ça vaut le coup d'en parler là, maintenant. Donc, j'aimais bien prendre mon temps. Ces entretiens, c'est des moments difficiles à vivre. Parfois, la personne nous raconte des choses extrêmement violentes et ça laisse pas indemne, en fait. Donc, déjà, il y a cet impact émotionnel qui, moi, me ralentissait clairement. Je remontais pas dans mon bureau avec la décision en tête à faire un résumé des faits et à être efficace sur la rédaction d'une décision. Je mettais beaucoup de temps à chercher des informations, à faire mes décisions, les rédiger. Et je faisais pas mal de décisions d'accord parce que je passais beaucoup de temps à l'entretien et je pense que j'arrivais à recueillir beaucoup d'éléments personnalisés. Mais en même temps, je prenais du retard, un retard énorme. Ça mettait beaucoup trop de temps que ce qu'on me demandait. J'ai rapidement été la dernière de la section, de la division. La division était la dernière de l'office, on me disait que c'était de ma faute. Je faisais des heures sup énormément. C'est vrai, j'avais des piles de dossiers, alors c'était beaucoup plus facile de faire les décisions d'accord. Et pour les rejets, j'avais beaucoup plus de mal. Quand je savais que le demandeur avait pas donné d'arguments, pas suffisamment raconté son histoire de vie, ou que c'était pas du tout cohérent, parce qu'il avait sûrement acheté un récit et que ça correspondait pas à sa vraie histoire, parce qu'il savait que son histoire de réfugié climatique ou réfugié économique n'allait pas lui permettre d'avoir les papiers par ce biais-là. Et j'avais pas envie de jouer au détecteur de mensonges, quoi, au final. Donc, j'arrivais plus à me prêter au jeu de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je croyais pas trop à ce que je faisais, en fait. J'avais du mal à rendre la décision parce qu'à partir du moment où on écrivait la décision et où elle était envoyée, ensuite ils avaient un délai assez court pour faire un recours à la Cour nationale du droit d'asile. S'ils sont de nouveau rejetés, ils sont susceptibles d'avoir une obligation de quitter le territoire français, ils se retrouvent en situation irrégulière. Donc j'avais l'impression, quand on avait certaines nationalités où c'était principalement des rejets, d'être une machine à créer des gens en situation irrégulière. Donc j'avais vraiment du mal à rendre ces décisions. Donc, c'était long. Ma chef était assez satisfaite au début de mes décisions en général. Et puis, elle a vu que mon taux d'accord était plus important que le taux d'accord des autres officiers de la division. Donc, elle a commencé à avoir des doutes sur mon honnêteté intellectuelle. En me disant que j'étais trop crédule, qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on me disait, que j'étais un peu naïve. Voilà, moi, c'est pas que je voulais mentir ou quoi que ce soit, c'est juste que je me souvenais de la personne, de la manière comme elle avait dit les choses, et que je pensais qu'elle avait besoin d'être vraiment protégée, quoi. Donc, petit à petit, elle a commencé de plus en plus à me faire changer mes décisions d'accord en rejet. Et c'était difficile. Et donc là, je prenais du recul. Alors, je demandais donc aux autres, comment vous faites pour faire des décisions de rejet à l'appel, sur certaines nationalités, etc. Et être tranquille. Donc, ils me disaient, oui, mais c'est pas parce qu'ils ont statut de réfugié que ça va non plus changer leur vie et qu'ils vont, c'est pas non plus l'Eldorado d'être réfugié en France. La situation continue d'être difficile. D'autres qui disaient, oui, mais on applique les règles, on applique la loi française. La loi, c'est la volonté du peuple. Donc, si on respecte ces lois-là, c'est que c'est normal, c'est pas nous, c'est la volonté du peuple. Je trouvais que c'était une abstraction un petit peu facile. Enfin. Ou d'autres qui disaient carrément que ça avait rien à voir avec notre travail, que c'était le karma, enfin que les demandeurs d'asile dans une autre vie, ils avaient dû faire des choses, voilà, pas, c'était juste des retours de karma s'ils avaient des rejets et que vous fallait pas trop que je m'en fasse. Voilà, puis il y en avait qui étaient carrément, fervents défenseurs alors du droit d'asile. On défend le droit d'asile, donc on ne donne la protection que pour ceux qui vraiment en ont besoin, que ceux qui vraiment seraient tués en cas de retour dans leur pays, pour préserver le droit d'asile, qui est un droit plus important que n'importe quel autre. Je crois qu'il y a des OP qui arrivent à être toujours sensibles, hein, et qui ont vraiment confiance dans ce qu'elles font, et qui pensent qu'elles peuvent protéger certains cas. Mais je pense qu'à l'usure, on devient maltraitant. À l'usure d'entendre des récits de viol, oui, peut-être que ça fait plus rien, et que du coup... on est blasé et qu'on se rend plus compte de ce qu'on fait et ça participe à un système raciste, quoi, ou sexiste. On me disait souvent que je m'étais un peu trompée de travail, de voix. Que moi, j'étais trop sensible pour faire ça et qu'il fallait que je travaille dans l'associatif, que j'avais pas trop ma place dans une institution sérieuse comme l'OFPRA. Je pense que moi, j'ai pas réussi à me créer une carapace, en fait. J'ai dû voir un psy pour la première fois avec ces problématiques de que faire de ces récits de violence sexuelle en particulier. Donc, j'avais beaucoup besoin de parler à l'extérieur. Et j'en parlais beaucoup à mon conjoint, à ma famille. Ouais. Mais bon, je savais bien que ça n'allait pas arranger les choses. Les gens en avaient un peu marre, à l'extérieur, de m'entendre parler. Et finalement, je suis partie. Mais j'avais un stock de décisions donc, que je n'avais pas fini d'écrire. Et je suis revenue quelques jours un petit peu en rab pour finir des décisions, alors que je crois que mon contrat était fini. Et cette hantise que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne la décision et que j'ai plus droit de regard sur ce qui avait été fait avec... je me souviens qu'il y avait des dossiers où j'avais dû reconvoquer les demandeurs ou les demandeuses en entretien parce que c'était... j'avais l'impression que je pouvais faire quelque chose pour les protéger ou voilà. Ouais, j'ai mis un petit peu de temps à décrocher. Mais je suis vite passée à autre chose aussi. Je pense que j'avais besoin de prendre de la distance, clairement.
C'était dans la tête des officières de protection de l'OFPRA, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci aux deux officières de protection qui ont accepté de témoigner, à Serge et à Arnaud Aubry. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.